Nous allons faire une lecture dans l'évangile de Jean. Je vous encourage vraiment à prendre des notes. Plusieurs, je le sais, ont besoin. Vous n'avez pas, comme moi, on n'a pas la capacité de noter peut-être une phrase qui va vous interpeller. J'en suis persuadé. Je le sais parce que je l'ai vécu, de ne pas avoir noté une parole de Dieu. On peut oublier une parole ? Eh oui, c'est un combat. Premier texte dans l'évangile de Jean, chapitre 9, verset 1er. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question : Rabbi, qui a péché ? Cet homme ou ses parents ? Pour qu'il soit né aveugle. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient où personne ne peut travailler. Dans le prophète Osée, c'est juste après le livre de Daniel, certains ont du mal à le trouver, mais cherchez-le. Vous savez, Ézéchiel, Daniel, Osée. Il nous est résumé le combat que Jacob a vécu une nuit où Dieu l'a, excusez-moi l'expression, où Dieu l'a coincé. Osée chapitre 12, versets 4 et 5. Dieu a voulu que l'on sache un petit peu ce qui s'était passé dans le cœur de cet homme, car il y a des combats qui font que c'est bien d'avoir quelques explications. Osée chapitre 12, verset 4. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon, et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange, et il fut vainqueur. Il pleura, et lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel, c'était 20 ans plus tôt cette affaire. Et c'est là que Dieu nous a parlé. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 32, il nous est raconté une expérience que Jacob a vécue, je pense qu'il avait entre 80 et 90 ans, c'est sûr, lorsqu'il a vécu cette expérience. Genèse chapitre 32, on va partir à partir du verset 6 et on va faire cette lecture, s'il vous plaît, que je vous encourage à faire plusieurs fois chez vous, dans le silence de votre âme. Genèse 32, verset 6. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, « Nous sommes allés vers ton frère Ésaü et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. » Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit, « Si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. » Jacob dit, « Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, « Retourne dans ton pays et fais dans ton lieu, et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. » Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton. Et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi tu as dit, je te ferai du bien, et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü, son frère. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément. Et il dit à ses serviteurs, « Passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. » Il donna cet ordre au premier, « Quand Ésaü, mon frère, te rencontrera et te demandera, « À qui es-tu et où vas-tu et à qui appartient ce troupeau devant toi ? » Tu répondras à mon serviteur Jacob, c'est un présent envoyé à mon serviteur Ésaü, et voici, il vient lui-même derrière nous. Il donna le même ordre au second, au troisième, et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésaü, quand vous le rencontrerez. Vous direz, voici, ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous. Car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Car vous avez tous compris que son frère revenait à sa rencontre pour le tuer. Le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la nuit même, prit ses deux femmes, ses deux servantes, ses 11 enfants et passa le gué du Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et fit passer tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Et il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passait Péniel. Jacob boitait de la hanche. Amen. Mes frères et sœurs, ce matin, je sais que Dieu veut délivrer quelqu'un. Vous savez, la vie est compliquée. Elle peut être facile, mais à des moments, elle est compliquée. Et nous sommes tous confrontés à des situations difficiles par rapport au passé, rien que le passé. Nos faiblesses, nos manquements, nos erreurs de jugement. Est-ce que nous n'avons pas fait des erreurs de jugement sur nous-mêmes, déjà, sans parler des autres. La manie de vouloir toujours tout comprendre et de poser des questions à l'infini. Pourquoi ? Et pourquoi ? Et pourquoi moi ? Et pourquoi j'ai vécu cette épreuve ? Et pourquoi j'ai vécu ce divorce ? Pourquoi ? Et pourquoi ? Et pourquoi ? Et on est là en train de se détruire. Vous savez, cette semaine, j'ai eu la grâce de prendre un coup. Ouais. Et le soir, j'ai eu besoin vraiment de me tenir devant Dieu. Je le fais tout le temps. Mais il y a des moments, vous le savez, notre approche de Dieu est un peu plus sérieuse. Et je méditais le livre de Jean. Et en méditant le livre de Jean, Dieu m'a parlé. Quand justement, la vie faisant, Jésus avançait avec ses apôtres et ils ont croisé sur le chemin cet homme aveugle de naissance qui n'avait pas d'œil. Et bien sûr, tout pasteur qu'ils étaient, la théologie prenant le dessus sur les œuvres, ils vont poser la question à Jésus, qui a péché ? Qui a péché ? Pour qu'il soit né aveugle. Il fallait bien coupable, il fallait bien une explication. Qui a péché ? En plus, vous voyez, la théologie parfois nous fait dire des bêtises. Qui a péché pour qu'il soit né aveugle ? Pour qu'il soit né aveugle, lui ou ses parents. Donc ça voudrait dire qu'un enfant aurait pu pécher dans le sein de sa mère. Vous voyez combien on peut en arriver à dire des bêtises. Jésus, écoutez bien mes frères et sœurs, écoutez bien. Jésus aurait pu, j'allais dire aurait dû, Jésus aurait pu prendre demi-heure minimum, nous aurions deux chapitres de plus dans la Bible, et expliquer pourquoi ce garçon était né aveugle, et pourquoi cette souffrance, et pourquoi ce péché, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Jésus dit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. C'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Alors, c'est important, frères et sœurs. Bien sûr que Jésus, mais d'une manière théologique, intelligente, comme il n'y a que lui qui peut le faire, aurait vraiment pu expliquer qu'il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. C'est comme ça. Bien sûr que si on réfléchit bien quelque part, toute maladie, etc., est la conséquence du péché. Vous êtes d'accord? On ne peut pas le détourner. Mais Jésus a dit en français courant, c'est comme ça. Maintenant, il y a une œuvre à faire. Est-ce que vous comprenez? Il y a toujours dans nos cœurs ce besoin. Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi j'ai souffert? Et Jésus dit non. Maintenant, il y a des œuvres à faire. J'ai préparé des œuvres. Pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, je ne sais pas ce que vous avez traversé, mais je sais que l'ennemi est spécialisé dans l'art de nous emprisonner, comme quelqu'un qui ne voudra pas pardonner parce qu'il a été blessé, plusieurs fois, et que Jésus est sévère par rapport au manque de pardon. Vous connaissez la parabole dans Matthieu 18, où Jésus présente cet homme qui ne veut pas pardonner, et il est dit qu'il va être emprisonné jusqu'à ce qu'il ait payé sa dette. Vous connaissez cette histoire? C'est une histoire terrible. Jésus nous enseigne que lorsqu'un homme ne pardonne pas, il est emprisonné. Vous allez me dire, mais moi je suis libre. Mes frères et sœurs, si nous ne pardonnons pas, nous sommes enfermés. Et le passé, les manquements, les problèmes, nos casseroles, etc. que nous traînons, si nous ne prenons pas la décision d'avoir un rendez-vous avec Dieu comme Jacob a dû l'avoir très tard dans sa vie, parce qu'il ne voulait pas l'avoir. Parce que pour avoir un rendez-vous, il faut se retrouver seul avec Dieu. Et si nous ne voulons pas ce rendez-vous, nous allons continuellement vivre à côté de ce que Dieu veut. Vous savez, mes frères et sœurs, il y a des textes dans la Bible qui nous montrent combien nous pouvons souffrir pour rien. Pour rien. Nous, on est tout le temps, il faut tout le temps calculer. Vous rappelez les apôtres quand ils disent, mais en fait, Jésus, tu sais, là, ces gens qui sont morts, que Pilate a assassinés, enfin, il ne le dit pas comme ça, il a mêlé leur sang avec le sang de leur sacrifice. Vous rappelez? Ils voulaient savoir, mais pourquoi ces gens sont morts comme ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et Jésus leur dit, mais vous ne vous rappelez pas? Les 18 là, personnes qui sont mortes, sur qui la tour de Siloé est tombée. Et Jésus leur dit, occupez-vous de votre âme. Enfin, je le résume. Hein, occupez-vous de votre âme. Le Seigneur, il sait où nous en sommes. Et il sait exactement ce que nous sommes en train de traverser. Il sait s'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans que nous passons à côté de la vraie bénédiction. Parce que Jacob était un magouilleur. Et toute sa vie, il a fui, comme le don spirituel le disait. Et ça, c'est un problème parce qu'on peut toujours fuir. Car même si Dieu est tout puissant, comme le rappelaient les dons, n'oubliez pas quand même que nous avons notre libre arbitre. Et que nous pouvons fuir Dieu. Jacob a fui toute sa vie. Jusqu'au jour où Dieu l'a empoigné. Parce que pour ne pas fuir, il faut que Dieu nous empoigne. C'est une histoire sérieuse qu'on voit ce matin. Parce que le Seigneur, il nous connaît, il te connaît. Il sait exactement où tu en es. Et le Seigneur, il veut te dire, pour commencer, c'est mon introduction. J'ai fini avec l'introduction. Arrête de dire pourquoi moi, pourquoi j'ai divorcé, pourquoi je suis tombé sur un type comme ça, pourquoi j'ai traversé ça, pourquoi je m'en sortirai jamais. Écoutez-moi, le Seigneur il te dit ce matin, maintenant j'ai des œuvres à te faire faire. Vous entendez frères et sœurs? Le Seigneur il est le Dieu tout puissant. Oui, Alors, entrons dans les œuvres qu'il a préparées. Combien de chrétiens, je le répète, sont là, écrasés par le passé. Écrasés. C'est quelque chose. C'est comme ça. Les gens sont pénibles. Vous le croyez que j'exagère? Je ne croyais pas qu'on est pénible. Et plus on vieillit, plus le passé peut devenir un boulet. Regardez l'expérience de Pierre. Je prends juste une ou deux expériences pour vous montrer vraiment combien c'est quelque chose. Pierre avait confiance en lui-même. Alors aujourd'hui, on lui dirait, écoute, tu sais, tu as renié le maître, tu as fait le malin, tu as fait le beau devant les autres, tu devrais peut-être aller voir un psy. C'est peut-être ta relation avec ta mère qui t'a fragilisé. Vous savez, aujourd'hui, on est là. On envoie les gens chez les spies à tour de... Les spies, oui, les spies, ça speed, ouais. Ouais. Vous me moquez de moi? Non, vous me moquez de moi, c'est que moi j'ai un problème aussi. Mes frères et sœurs, et les gens, on les détruit. Regardez Pierre. Pierre, il a renié Jésus, c'est grave. Il avait dit que les autres le feraient, c'est lui qui l'a fait. Jésus, au bout de la troisième fois, le rencontre, Pierre va provoquer la situation. Il apprend que c'est Jésus. Il nage pendant une centaine de mètres. Puis en fin de compte, il n'y a pas l'entretien. Il doit retourner aider les autres, récupérer les poissons. Et puis après le repas, parce que le Seigneur, il aime, même s'il y a des problèmes, il faut qu'on soit nourri. Il lui dit, Pierre, est-ce que là aussi, il n'y aurait pas pu avoir une heure d'explication? Pierre lui dit, est-ce que tu m'aimes plus que les autres? C'est une question, ça. Est-ce que Dieu peut nous poser la question ce matin? Est-ce que tu m'aimes? Alors, paie mes agneaux, un projet, des œuvres. Il lui a dit, tu sais, tu m'as déçu, je ne peux pas te faire confiance. C'est comme pauvre type. Hein. Est-ce que Jésus aurait pu quand même... D'une façon beaucoup plus pédagogique, c'est clair, mais Jésus aurait pu le mettre sur la touche. Et Jésus va lui dire, va lui poser juste trois questions. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et après, il va lui dire, je le garde pour la fin de la raison. Mais quel enseignement, quel encouragement. Voyez, il aurait pu lui dire, oui, il s'était repenti. Il avait pleuré lui aussi, il avait pleuré. Et il a été restauré. Mes frères et sœurs, Dieu restaure nos âmes. Ou alors nous refusons d'être restaurés par rapport à tous nos passés. Et Pierre, après, je peux vous dire que Pierre va faire les œuvres qu'il doit faire. Il faut un rendez-vous. Alors on est là à l'église ce matin, mais soyons intelligents. Ce n'est pas parce que nous sommes ce matin dans un lieu de culte et avec un culte hebdomadaire que nous avons un rendez-vous vraiment avec notre Dieu. On peut participer à un culte, assister à un culte, se régaler à un culte, apprécier. J'ai apprécié la chorale, ces chants vivants qui m'ont interpellé. J'ai apprécié la Sainte-Seine, j'ai apprécié la communion fraternelle, j'ai apprécié les dons spirituels qui étaient tous à propos, etc. Mais est-ce que je suis dans l'appréciation ou est-ce que je suis dans la communion avec mon Dieu? Et il faut un rendez-vous. Il faut un rendez-vous. Nous nous apprécions, nous nous évaluons, nous sommes même capables de juger la prédication du pasteur, etc. Mais il faut comprendre une chose, frères et sœurs. Dieu nous a sauvés, que son nom soit béni, c'est un honneur. Vous le croyez? C'est une grâce d'avoir été sauvé. Mais Dieu, il ne veut pas que nous sauver. Il veut nous changer. Continuer à nous façonner, c'est l'histoire du potier et du vase. Dieu, quand il peut faire un vase et le vase qu'il fait ne réussit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a de la résistance, parce qu'on ne laisse pas les mains du potier. Il faut être sur le tour. Pour qu'un potier puisse créer un vase, il faut absolument que le vase soit sur le tour. Le tour, c'est la parole. Les mains, c'est le potier, c'est le Seigneur. Il faut qu'il y ait cette cohésion. Et beaucoup de chrétiens sont des vases brisés ou des vases déformés ou pas finis ou à refaire pour la simple et unique raison qu'il n'y a pas ce rendez-vous. Il faut un rendez-vous. Il y a des œuvres. Même le gars là qui vous rendez compte, il n'avait pas d'œil. il devait être mort. On est moche à cause de notre cécité. Il y a plein de choses qui nous appauvrissent. Mais il y a des œuvres, frères et sœurs. Est-ce que vous le croyez que Dieu a des œuvres? Pour toi, pour nous, Dieu a des œuvres. Il y a un but. Le but, c'est de nous changer. Est-ce que c'est écrit qu'il nous a sauvés? Pourquoi il nous a sauvés? Vous connaissez la suite? Éphésiens 2, 10, 8. Il nous a sauvés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance, afin que nous les pratiquions. Il y a des œuvres mortes. Tout ce qu'on fait par la chair, c'est des œuvres mortes, même l'évangélisation. Et c'est pour ça que plein de chrétiens sont fatigués, épuisés, comme on l'a entendu ce matin. Plein de chrétiens qui subissent leur vie chrétienne. Et puis il y a des œuvres bonnes, des œuvres vivantes. Celles que le Seigneur nous demande de faire. Et le vrai combat, il est là. Le vrai combat, écoutez-moi bien, frères et sœurs, parce que certains, je sais, ce matin, vont être délivrés. Délivrés. Le combat, il est là. Dieu veut nous changer. Et nous, nous refusons. On veut bien changer un peu, bien sûr, tout le monde est capable. Mais si, on veut changer, mais je veux bien changer. Mais vous savez, on veut changer un peu comme aujourd'hui dans le monde, on veut de la chirurgie esthétique. Ouais. Changer l'apparence. Je ne parle pas de chirurgie esthétique. Je parle de chirurgie radicale. Un véritable changement. Bien sûr qu'on veut faire des progrès. Il va de soi que personne ne se lèverait pour dire « Ah, monsieur Gauche, je ne veux pas faire de progrès. » Même dans nos prières, personne n'aurait l'inintelligence de dire « Seigneur, je ne veux pas faire de progrès, le salut me suffit. » Mais mes frères et sœurs, est-ce que vous acceptez? Dieu va voir votre réponse dans votre cœur. Est-ce que vous acceptez que Dieu provoque une situation? Vous avez vu, Dieu a provoqué une situation. Dans Genèse, j'ai pris le verset au verset 6, mais au verset 7, il y a une situation que Dieu présente, une situation catastrophique. Son frère vient à sa rencontre pour le tuer et se venger au bout de 20 ans d'amertume. Qu'est-ce que Jacob, hein? Jacob, lui, il est effrayé, très effrayé, et saisi d'angoisse. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait ce qu'il a l'habitude de faire, de magouiller, de calculer. En plus, là, c'est grave, parce qu'il calcule en mettant ses femmes et ses enfants en cause, en danger. Vous voyez, à force de magouiller, on finit par esquinter sa famille. Et il calcule avant même de prier. Et sa prière, vous avez vu, il calcule. Si Esaü vient, l'un des camps se bat, l'autre qui pourra se sauver, de leur dire, moi, l'autre se sauvera, moi je suis derrière. Vous voyez comment il est courageux. Moi, je pourrais fuir, le temps qu'ils récupèrent les moutons et le reste. Il a fait que ça. Et il a été béni. Il a déjà été béni. Il y a 20 ans en arrière à Bethel, il n'a pas été béni, Jacob. Il connaissait Bethel, ça veut dire la maison de Dieu. Il a été bouleversé quand il a vu ces anges qui montaient et qui descendaient. Il a donné un nom à ce lieu. Il a été béni. Il a été béni, mais il n'a pas été changé. Et le but de Dieu, c'est de nous changer. Nous, bien sûr, dans les églises, on a tout articulé sur la bénédiction, on a sur la grâce, etc. Et c'est vrai, en plus c'est vrai que Dieu bénit et qu'il fait grâce. Tous les jours. Tous les jours, il fait grâce. Mais il n'avait pas compris quelque chose. Et Dieu a provoqué une épreuve. Une épreuve dans laquelle il y a la peur. Bien sûr qu'il calcule, parce que la nature revient toujours. On réagit en fonction de ce que l'on est. Il va prier, mais il va prier bien sûr. Seigneur, bénis-moi, protège-moi. Il ne comprend pas. Et on ne comprend pas ce que Dieu veut faire. Vous ne comprenez peut-être pas l'épreuve que vous êtes en train de traverser. Bien sûr, est-ce que c'était normal qu'il demande à Dieu de le protéger? Est-ce que c'était normal? Ben oui, c'est normal. Quand on a peur, c'est tout à fait normal de dire, Seigneur, voilà, tu vois mon frère, il n'a pas avalé la pilule, je pensais que ça irait mieux. Il était en conflit avec son frère, il était en conflit avec son oncle, et il fuit. Il n'a fait que ça toute sa vie. Il a fui. Et les chrétiens, on peut fuir. Béni soit le jour où on ne peut plus fuir. Les chrétiens, ils fuient tout le temps. Tout le temps. Béni soit le jour où le Seigneur nous empoigne. Et là, on ne peut plus fuir. Ça, c'est bien. Dans la Genèse, on voit que l'agresseur est un homme. Dans le livre d'Osée, l'agresseur, c'est un ange. Qu'importe. Qu'importe, Dieu veut un rendez-vous pour le changer. Et lui, il croyait lutter avec son frère, voyez. Vous voyez, pour lui, le problème, et c'est ça le problème, c'est pour ça que Dieu le dit, ne combattez pas contre la chair et le sang. Lui, son problème, c'était son frère. Je suis même peut-être sûr que quand cet agresseur est tombé sur lui, il a peut-être cru que c'était un de ces hommes de son frère qui venait pour le tuer. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait pensé. Je le vérifierai quand je serai avec lui, je demanderai. En tous les cas, une chose, ce n'est pas Jacob qui luttait avec son frère, c'était Dieu qui luttait avec lui. Comme la façon dont je vous le dis, vous savez que c'est vrai. Son problème, ce n'était pas Ésaü. Peut-être que vous dites, oui, mon problème, c'est mon ancien mari, mon problème, c'est mon ancienne épouse, mon problème, c'est celui-ci ou celle-là. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Notre problème, ce n'est même pas le diable. Ça peut l'être. C'est souvent le Seigneur. Vous le croyez ou vous ne le croyez pas? Relisez cette histoire plusieurs fois, vous verrez. Nos combats, d'où viennent-ils au fait? Parce que c'est des questions qu'on peut quand même se poser. Qui provoque nos combats? Dans l'histoire de Job, c'est Dieu ou le diable qui a provoqué le combat? Qui c'est qui l'a autorisé ce combat? Qui c'est qui l'a autorisé? C'est Dieu. D'ailleurs, Job ne dit pas « l'Éternel a donné et le Satan a repris ». Il dit « l'Éternel a donné et l'Éternel a repris ». Vous le méditerez. Et ce combat est résumé ici, dans Osée. Il faut les combattre, parce que pour comprendre nos combats, ce n'est pas une question de juger une situation. C'est une question, cette histoire elle est là dans la Bible, vous savez que tout est écrit pour notre instruction. Alors, cet ange qui lutte montre que Dieu va lutter avec nous. Je vous pose une question pour entre deux là. Est-ce que vous êtes en train de fuir Dieu ou est-ce que vous voulez que Dieu vous empoigne? Vous avez vu la question que l'ange ou l'homme pose à Jacob au verset 27? Quel est ton nom? Alors, l'ange n'a pas dû se dire à un moment donné, ah, peut-être que je me suis trompé de personnage. Non, vous inquiétez pas. Quel est ton nom? D'ailleurs, c'est le titre que j'ai donné à ma prédication. On peut en trouver un autre. Quel est ton nom? Ce n'est pas une interrogation. Il faut comprendre que pour s'en sortir et pour changer, il faut savoir faire des confessions. Quel est ton nom? Bien sûr, il va répondre, je suis l'usurpateur, le trompeur, le calculateur, Jacob. Soyons droits devant Dieu. Que répondrions-nous ce matin si le Seigneur nous posait la même question? Quel est ton nom? Je ne parle pas du prénom que vos parents vous ont donné. Je parle du nom spirituel. Comme quand Dieu a dit à Belshazzar, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Voilà comment il s'est retrouvé au ciel cet homme, parce qu'il est mort dans la nuit. Léger. Quand il a dit à Dieu, il aurait pu dire, je m'appelle léger. Tout roi que je suis léger. Alors je ne sais pas, peut-être que ça vous embarrasserait. Ça m'embarrasserait. Et puis, comme je le réfléchissais ce matin en priant, certains ont des noms composés. Pourrais-je peut-être dire, mais Seigneur, ça fait 20 ans que malgré le fait que tu m'as béni à Bethel, je suis un paresseux. Oui, mon nom, je suis paresseux. La bénédiction passe par la confession. Par cette honnêteté, parce que sinon on ne fera aucun progrès. Son nom va être changé, parce que Jacob va confesser son nom. Oui, je suis mauvais. Oui, je m'appelle infidèle. Oui, je m'appelle paresseux. Peut-être que même certains ne pourraient pas dire leur prénom spirituel, tellement ils vont pas bien. Alors, on n'est pas là pour faire cette intrusion. Mais Jacob avait déjà été béni. Est-ce qu'il a été béni, Jacob? Vous avez le dit? J'ai traversé ce Jourdain avec un bâton. Un bâton. Et il est dans une richesse incalculable. Vous avez vu les deux troupeaux qui préparent pour amadouer son frère. On appelle ça, en français courant, des pots de vin. C'est comme ça que ça s'appelle aujourd'hui. Je ne pense pas vous apprendre grand-chose. Il a toujours fui, il a fui. Mais là, il ne fuit plus. Je voudrais, mes frères et sœurs, que nous comprenions cette affaire. Je ne sais pas ce que vous voulez, je ne sais pas quelle expérience vous voulez faire, je ne sais pas si vous voulez que Dieu vous dise vraiment « arrête de dire pourquoi moi, maintenant j'ai des projets. » Alléluia. Maintenant j'ai des œuvres. Écoutez-moi mes frères et sœurs, je ne veux pas m'énerver, ni frapper quelqu'un. Mais je voudrais que nous comprenions qu'il y a des gens qui sont emprisonnés parce qu'ils ont été blessés par un frère. Il ne m'a pas dit bonjour. Ça fait depuis quand? Il y a 15 ans, il ne m'a pas dit bonjour. Il y a des gens... Non mais, je dis ça sous le ton de la plaisanterie. Il y a des gens qui ont rétrogradé pour des trucs comme ça. Vous voyez, combien... le diable, alors, il n'a pas besoin de forcer beaucoup. Mes frères et sœurs, je vous le dis de la part du Seigneur, arrête de dire pourquoi, pourquoi si, pourquoi ça, et comment, et ça vient de qui, et qui c'est qui a péché, et dans mon foyer, on a divorcé, mais ça vient de qui? Écoute, arrête! Et maintenant, je te propose des œuvres. Confesse ton nom, avoue-le, pas ici, il y a des choses, elles sont entre nous et Dieu, il y a des choses, c'est privé dans notre petit bureau, dans notre petite chambre, mais dites-lui, Seigneur, voilà, je suis comme ça, mon nom, il est comme ça, je te le dis, je suis à personne là, je te le dis comment je suis, je te le dis vraiment, voilà comment je m'appelle. C'est le seul moyen d'entrer dans les œuvres que Dieu a préparées, c'est le seul moyen d'entrer vraiment dans les œuvres que Dieu a préparées. Cette lutte, pour, bien sûr que pour Jacob, avant l'histoire de la question, c'était une malédiction, c'était de l'adversité. Mais je peux vous dire, en plus, voyez les paradoxes dans nos vies. L'ange lutte avec Jacob, l'empêche de partir, c'est très bien fait. Et quand l'ange le laisse partir ou se dégage, c'est Jacob qui dit « Ah non, je ne te laisserai pas partir. » C'est vrai qu'on est toujours... On est toujours comme ça. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il comprend que maintenant il lutte avec Dieu. Il faut que quelque chose se passe. Il y a eu la bénédiction avec des petits bés en pagaille. Mais maintenant il veut la bénédiction. Il veut la présence de Dieu. Il veut changer. Et Dieu, ça va plaire à Dieu. Et Dieu lui dit, mais tu as lutté avec moi. Et tu as été vainqueur. Tu t'appelleras plus le magouilleur. Tu t'appelleras le prince. Et ce matin, je réfléchissais, j'imaginais Jacob le lendemain. Franchement, j'en ai pleuré de joie. Franchement, j'ai l'impression d'avoir vu cette histoire. J'imaginais Jacob quand il est retourné auprès des siens. Quand il a traversé le torrent de Jabbok, c'est un affluent du Jourdain. J'ai regardé bien sur les cartes comment c'était. Et j'imagine Israël, appuyé sur son bâton, qui traverse le Jourdain, et au loin il y a Léa, Rachel, Dina. Vous savez la petite qu'ils ont, on n'en parle jamais. On parle toujours des frères, on ne parle jamais de Dina. Et j'imagine Dina qui voit son papa arriver à 300-400 mètres, et dit « Maman, mais qui c'est ce monsieur ?» On dirait papa. C'est bizarre quand même. Il est tout ébouriffé. Il boite. Hein. Non, c'est pas papa. Maman, qui sait? Mais on dirait, lui, au fur et à mesure qu'il s'approche, mais il boite. J'ai même l'impression qu'il a un œil au beurre noir. Parce que ça a duré quand même toute la nuit. Je ne pense pas qu'il a dû ressortir comme je suis là. Je pense que les habits devaient avoir pris quelques froissements. Et je l'imagine s'approcher. Papa, oui, maman, c'est papa. Papa, là, il a tout perdu. Franchement, je me suis fait le film. Vous savez que c'est mon plaisir. Et j'imagine Rachel lui dire, écoute, chérie, tu vas bien? Ouais, je vais très bien. Je suis un vainqueur maintenant. Et j'imagine les autres le regarder, me dire, pour un vainqueur. C'est ça les vainqueurs? Vous savez, en pensant à ça, je pensais à ce verset d'Hébreux 2, où il est dit que Jésus a été élevé à la perfection par la souffrance. C'est écrit ou c'est pas écrit? Franchement, moi, c'est des versets qui m'interpellent. Et je sais que cette histoire, elle est aussi pour moi. Parce qu'on a tous un petit peu le comportement de Jacob. Ne jouons pas les malins en nous comparant soit à Jacob. Ah non, moi je préfère me comparer à Isaac. Isaac, c'était plus tranquille. Mes frères et sœurs, il y a nous du Isaac, il y a nous du Jacob, il y a nous du Abraham, etc. On a tous des comportements qui se recoupent. Et je sais, mes frères et sœurs, que nous avons un Dieu qui dit « Arrête maintenant, j'ai des œuvres ». On pourrait donner ce titre à la prédication. Arrête, j'ai des œuvres. Vous le croyez que Dieu pardonne tout? Vous le croyez? Vous le croyez, mes frères et sœurs, que Dieu peut tirer un trait sur tout, que tout péché, tout blasphème peut être pardonné? Et regardez cette notion de souffrance, il faut l'accepter. Nous, on est dans le monde du positif. Moi, des fois, je vais sur Internet, je ne supporte pas au bout de 5 minutes, je suis obligé d'annuler ces prédications. On est tout le temps dans la puissance et dans le positif. Il faut positiver, il faut parler de résultats, de succès. Au fait, Pierre, il a eu du succès dans son ministère? Tiens, est-ce que Pierre a eu du succès? Vous avez vu ce que Dieu lui dit, Jésus lui dit, quand il accepte le fait qu'il va paître les agneaux? Il lui dit, tu sais, quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais. Quand tu seras vieux, un autre te scindra et tu iras là où tu ne veux pas. Et il lui indiquait par là de quelle mort il allait souffrir. Franchement, c'est très sérieux. Jésus aurait pu lui dire... J'ai calculé ça, vous savez, je l'ai calculé. Jésus a pu lui dire, tu sais Pierre, tu seras le premier à prêcher. Tu prêcheras le premier à la Pentecôte. Par toi, 3000 hommes vont se convertir. Tu vas écrire 2 épîtres qui seront dans ma parole éternelle. Tu ressusciteras Dorcas. Des villages entiers se convertiront par ton ministère. Est-ce que Jésus aurait pu lui dire ça? Est-ce qu'il aurait pu lui dire? Oui, bien sûr qu'il aurait pu lui dire. Et Jésus lui indique qu'il souffrira. Quand Jésus parle à Saul de Tarse, il aurait pu dire à Paul, « Ah Saul, écoute Saul, je vais te changer de programme. Tu vas bouleverser le monde. » Est-ce qu'il aurait pu le lui dire? Tu vas bouleverser le monde par ton ministère. Les 2/3 du Nouveau Testament seront composés de tes lettres. Tellement tu seras inspiré. Et Jésus lui dit, je vais te montrer ce que tu souffriras. Alors pourquoi je dis ça? Je dis ça pour que nous soyons... Ce n'est pas une question d'être optimiste. L'optimisme, c'est humain. Ne soyons pas pessimistes non plus. Ce qui est important, c'est d'être réaliste. Et de comprendre les choses. Dieu, il ne veut pas que l'on fuit. Il faut que nous acceptons cette empoignade. Seigneur, je veux cette bénédiction d'entrer dans les œuvres que tu as préparées. Vous avez vu ce magouilleur, comment il va terminer? Vous avez vu comment il termine, Jacob? Il termine en prophétisant. Il meurt en prophétisant. Vous voyez comment on peut changer. Et en plus, pour la cerise sur le gâteau, Dieu, notre Dieu, le Créateur du ciel, le grand Seigneur de l'univers, Jésus-Christ, quand il parle et qu'il se présente, il dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, il dit pas d'Israël, et de Jacob. Si ça, ça vous aide pas, si ça vous réconforte pas, eh bien restez dans votre passé, morfondez-vous, râlez, restez en prison. Mais moi je vous dis que le Seigneur, il te dit maintenant, il y a des œuvres à faire. Tant qu'on peut travailler, j'ai des œuvres. Alléluia. J'ai des œuvres pour chacun, pour toi mon frère, des projets de paix, d'espérance. Vous le croyez ça mes frères et sœurs? Dieu a un projet pour toi, toi qui as fait 20 ans que tu fuis, 20 ans, il y a des gens qui fuient. Alors moi je veux pas les juger, je sais pas ce que j'aurais fait si j'étais pas pasteur, parce que dans le cadre de la liste des questions, je me suis moi-même posé la question et que je la pose aux pasteurs qui m'écouteront. Pourquoi tu prêches? Oui, écoutez-moi les pasteurs. Pourquoi vous prêchez? On peut prêcher parce que il faut gagner sa croûte. C'est mon job. Et les questions que Dieu pose, elles sont toutes sérieuses. C'est pour, je le répète, amener cette confession afin qu'on soit libéré. Moi, je vous le redis sous cette forme toute simple. Toute simple. Dieu a des œuvres. Même s'il t'a béni. Dieu a béni Jacob. Vous relirez le contexte. Dieu a béni Jacob. Mais la bénédiction, tout est grâce. Oui ou non, tout est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Le morceau de pain, vous avez mangé ce matin? C'est une grâce. Je ne sais pas où vous dormez. Je ne sais pas quelle est votre maison. Je ne sais pas si Dieu vous a béni matériellement. Béni soit Dieu. Toutes les bénédictions sont des grâces. Quoique, cette bénédiction... Et c'est vrai que ça remet en question la théologie. Cette bénédiction, vous êtes d'accord avec moi, elle est quand même le résultat d'un combat. Oui ou non? Donc vous voyez, toutes les bénédictions sont grâces, mais celle-là, elle est le résultat d'un combat avec Dieu. J'aimerais que l'on puisse lui demander sa grâce. Quel est le nom que vous avez donné à votre dernière épreuve? Jacob a appelé le nom de sa dernière épreuve Péniel. J'ai vu Dieu face à face et j'ai été sauvé. Il aurait pu l'appeler lieu de combat, lieu de douleur. Franchement, il aurait pu dire que c'était un lieu de combat, le combat de la nuit. Non. Quel est le nom que vous avez donné à votre dernière épreuve? Ça, vous savez, ça en dit long, les noms qu'on donne. Mais je voudrais que ce matin, quelqu'un prenne la victoire. Parce que c'est pas moi qui le veux, c'est Dieu qui le veut. Et s'il y a quelqu'un qui dit, Seigneur, je vais arrêter avec les pourquoi. Même si les pourquoi, on peut les dire. Le livre des psaumes nous montre qu'il y a un temps pour dire pourquoi. Mais il y a un temps pour dire maintenant, ça suffit, on avance. C'est ça les psaumes, c'est pas pourquoi m'as-tu abandonné, pourquoi si, pourquoi j'ai des doutes, pourquoi, ok, et maintenant, Seigneur, montre-moi tes œuvres. Et s'il y a quelqu'un qui veut rentrer dans les œuvres de Dieu, sortir de son passé, qu'il soit pénible, qu'il soit malheureux, que ce soit votre faute ou la faute des autres, qu'importe. Jacob, c'était sa faute. Moi, je trouve que Dieu, il est bon. Et quand il nous coince, c'est bien, quand il a coincé Jonas, vous savez où il a coincé Jonas, est-ce que ça valait la peine? Moi je crois que oui. Je vais prier pour celui ou celle qui va humblement, ce soir, dans sa chambre, avoir ce petit moment avec Dieu, dire Seigneur, je vais te dire mon nom. Je vais te le dire Seigneur, honnêtement. Si vous ne savez pas quel est votre nom à cause de votre aveuglement, eh bien dites Seigneur, montre-moi quel est mon nom. Montre-le-moi, Seigneur, s'il te plaît. Mais s'il y a quelqu'un qui veut que je prie, lève-toi, mon frère, on est devant Dieu. Lève-toi parce que Jésus te dit, maintenant, j'ai des œuvres. J'ai une œuvre pour toi, pour ta femme, pour tes enfants. J'ai des œuvres, vous entendez? Mes frères, mes sœurs, Jésus a des œuvres. Il fouille pas dans le passé. Jésus propose des œuvres. Alléluia. Notre Père, merci pour la façon dont tu t'es occupé de Jacob, pour la façon dont tu t'es occupé de Pierre, de Jonas, de cet aveugle né. Merci de nous montrer comment tu t'y prends pour nous guérir de notre passé, pour nous guérir de notre misère et pour changer notre nom. Car le jour où nous passerons devant toi, nous voulons avoir le nom que tu aurais voulu que nous ayons. Vraiment, Seigneur, accorde-nous cette grâce lorsque nous serons présents devant toi, d'avoir vraiment le nom que tu aurais voulu que nous ayons sur la terre. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.